La sorcière du Strand par Lily Thomas Mead et Robert Eustace. Tout le monde à Londres, et spécialement les commerçants, a entendu parler de l'agence Werner, agence du commerce britannique pour renseignements sur la solvabilité de chacun. Son but est de s'enquérir de la position financière de toutes les maisons de gros et de détail, depuis celle de Rothschild jusqu'à celle de la plus petite boutique de bonbons à Whitechapel. Je ne dis pas que toutes les firmes soient consignées sur ces registres, mais par sa méthode d'enquête privée, elle peut s'informer de la position de toute maison ou de tout individu. Elle est la sauvegarde du commerce britannique et empêche une quantité d'escroqueries. De cette agence, moi, Dixon Drews, je fus nommé directeur en 1890. Depuis lors, j'ai rencontré de singulières gens et vu d'étranges choses, car dans ce monde, les hommes arrivent à commettre les plus extraordinaires actions pour de l'argent. Il advint donc qu'en juin 1899, mes affaires m'amenèrent à Madère pour une enquête d'une certaine importance. Mes affaires étant terminées, je quittai l'île le 14 du même mois par le Norham Castle, faisant route vers Southampton. J'étais monté à bord après dîner. La nuit était belle et les sons de l'orchestre du jardin public de Funchal m'arrivait sur la baie endormie, sous un ciel poudré d'étoiles, à travers l'air chaud et calme. Bientôt, le signal de « toute vitesse en avant » fut donné, et jetant mon adieu à la plus belle île du monde, je me rendis au fumoir pour allumer mon cher hôte. « Voulez-vous une allumette, monsieur ?» me dit un homme jeune, à la taille élancée, qui se tenait près du Tuffail. Avant que j'eusse pu répondre, il l'allumait et me l'attendait. « Pardonnez-moi, » dit-il, tandis qu'il envoyait l'allumette par-dessus bord. « Mais c'est sûrement à M. Dixon Drews que je parle. »« À lui-même, monsieur, » dis-je, le regardant attentivement. « Mais moi, je ne pense pas vous connaître. »« Vous ne me reconnaissez pas, » répondit-il. « Jack Selby, Hayward's House, Harrow, 1879. »« Pardieu, c'est vrai, » m'écriai-je. Nos mains se serrèrent, et un moment après, j'étais assis auprès du vieil ami qui avait embûché pour moi dans le temps et que je n'avais pas revu depuis le moment où, dans le brouillard gris d'une matinée de décembre, je dis adieu à la colline 20 ans auparavant. Selby était alors un garçon de 14 ans, mais cependant je le reconnaissais encore. Sa figure était bronzée mais agréable. Enfant, il était remarquable par sa grâce et par la finesse de son profil délicat. Ses avantages caractéristiques le distinguait encore, et bien qu'il eût maintenant dépassé légèrement la première jeunesse, il était encore réellement beau. Nous commençâmes à causer, et il me donna une esquisse rapide de son histoire. « Mon père me laissait beaucoup d'argent, » dit-il, « et The Meadows, notre vieille demeure familiale, est maintenant à moi. J'ai toujours eu du goût pour l'histoire naturelle, et ce goût fut la cause de mon départ pour l'Amérique du Sud. » J'ai eu ma part d'aventures étranges et j'y ai collectionné des spécimens de valeur ainsi que des trophées de toutes sortes. Je rentre maintenant de Parme, sur l'Amazone, étant venu jusqu'à Madère par un steamer de la ligne Booth, et ayant changé là pour un paquebot de la Castle. « Mais pourquoi tant parler de moi ? » ajouta-t-il en rapprochant son fauteuil du mien. « Quelle est votre histoire, mon bon ? Êtes-vous marié maintenant ? Avez-vous des enfants ? Où avez-vous réalisé le rêve de vos années d'école? Êtes-vous le possesseur du meilleur laboratoire privé de Londres? Pour ce qui est du laboratoire, lui dis-je en souriant, il faut que vous le voyiez pour en juger. Quant au reste, je suis garçon. Et vous? Je me suis marié la veille de mon départ de Para, et ma femme est à bord avec moi. Fort bien, répondis-je, comptez-moi tout cela. Voici. Le nom de jeune fille de ma femme est Dallas, Béatrice Dallas. Elle a juste 20 ans. Son père était anglais et sa mère espagnole. Tous deux sont morts. Elle a une sœur aînée qui a près de 30 ans, pas mariée, et qui est à bord avec nous. Il y a aussi un demi-frère de beaucoup plus âgé qu'Edith ou Béatrice. J'ai rencontré ma femme l'année dernière à Para, et j'en suis devenu tout de suite amoureux. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Il va sans dire que je la trouve belle. Elle est de plus très riche. L'histoire de sa fortune est assez curieuse. Son oncle maternel était un Espagnol extrêmement riche. Il fit une fortune énorme au Brésil, dans les diamants et les minerais. Mais on suppose que sa fortune lui dérangea la raison s'il faut en juger par la manière dont il en disposa. Il partagea les profits et intérêts annuels entre son neveu et ses deux nièces, mais déclara que la fortune elle-même ne devrait jamais être divisée. Il en a laissé la totalité à celui des trois qui survivrait aux deux autres. Un arrangement parfaitement absurde, mais qui n'est pas sans précédent, au Brésil, je crois. « Très irraisonnable, remarquai-je. Quelle est-elle la fortune de votre oncle ? Plus de 2 millions sterling. « Bon Dieu ! M'écriai-je, quelle somme ! Et après un instant de réflexion, le demi-frère, quel homme est-ce ? Il doit avoir plus de 40 ans et ne voit évidemment pas grand-chose. Je ne l'ai jamais vu. On dit qu'il est joueur. On dit aussi qu'il est en Angleterre et, comme il y a certaines formalités qui doivent être remplies avant que les deux sœurs puissent avoir la jouissance de leurs revenus, une des premières choses que j'ai à faire en arrivant est de le trouver. Il faut qu'il signe certains papiers, et nous ne pourrons rien régler jusqu'à ce que nous l'ayons découvert. Il y a quelque temps, ma femme et Edith ont appris qu'il était malade, mais mort vif, il faut absolument que nous le trouvions, et cela le plus tôt possible. » Je ne répondis pas, et il continua. « Je vous présenterai à ma femme et à ma belle-sœur demain. Béatrice est tout à fait une enfant, comparativement à sa sœur, qui agit envers elle comme une mère. Béi est une petite beauté, elle est si fraîche, si potelée, et elle a l'air si jeune. Edith est belle aussi, mais je pense parfois qu'elle est vaine comme un paon. À propos de Rousse, ceci m'amène à une autre partie de mon histoire. Les deux sœurs ont une connaissance à bord, l'une des femmes les plus remarquables que j'ai rencontrées. On l'appelle Madame Sarah. Elle connaît très bien Londres. De fait, elle a avoué qu'elle tenait boutique dans le Strand. Ce qu'elle a fait au Brésil, je l'ignore, car elle garde ses affaires très secrètes. Mais vous serez abasourdi quand je vous dirai sa profession. « Quelle est-elle ? » demandai-je. « Embellisseuse professionnelle. Elle prétend avoir le privilège de rendre la jeunesse à ceux qui la consultent. Elle déclare aussi qu'elle peut rendre beaux les gens laids. Il est certain qu'elle est habile. Elle sait un peu de tout et a des recettes extraordinaires en matière de médecine, de chirurgie et d'art dentaire. Elle est très jolie femme. Elle a les yeux bleus, un air innocent, des manières enfantines et des quantités de cheveux blonds ondulés. Elle admet ouvertement qu'elle est bien plus âgée qu'elle ne paraît. Elle semble avoir environ 25 ans et dit que par sa naissance, elle est mi-indienne, mi-italienne. Un arabe l'accompagne. Un garçon très beau et très curieux, qui lui donne les marques d'une absolue dévotion, et l'amène de para de Brésiliens. Cette femme possède toutes sortes de recettes bizarres et secrètes, principalement en cosmétiques. Sa boutique dans le Strand pourrait raconter, si j'ose dire ainsi, bien des histoires étranges. Ses clients vont la voir, et elle fait pour eux ce qui leur est nécessaire. Elle pratique à l'occasion de petites opérations chirurgicales. Et il n'y a pas un dentiste à Londres qui puisse rivaliser d'habileté avec elle. Elle confesse naïvement qu'elle possède quelques secrets ignorés de tous pour tenir les fausses dents d'une manière invisible. Edith Dallas en est engouée, et en vérité, son adoration équivaut à de l'idolâtrie. Vous dépeignez cette personne comme une femme très remarquable. Vous devriez me présenter à elle demain. Je le ferai, dit Jacques en souriant. J'aimerais avoir votre opinion sur elle. Je suis très heureux de vous avoir rencontré, Drousse. Ça me rappelle le vieux temps. Quand nous serons à Londres, j'ai l'intention d'habiter notre hôtel à Ditton Square pendant le reste de la saison. The Meadows va être remeublé, et Bi et moi irons nous installer dans le courant du mois d'août. Alors il faudra venir nous voir. Mais j'ai peur qu'avant de m'adonner au plaisir, je doive passer bien du temps à retrouver ce précieux Henry Joachim Silva. Si vous avez quelques difficultés, adressez-vous à moi. Je puis mettre à votre disposition, secrètement bien entendu, des agents, qui trouveraient mort ou vif, n'importe qui en Angleterre. Je fis alors à Selby un court exposé de mes affaires. « Merci, me dit-il, voilà qui est parfait, vous êtes l'homme qu'il me faut. » Dans le courant de la matinée suivante, après le premier déjeuner, Jacques me présenta à sa femme et à sa belle-sœur. Elles avaient toutes de l'allure étrangère, mais elles étaient très belles et sa femme particulièrement était gracieuse et distinguée. Nous avions causé environ 5 minutes quand je remarquai, s'avançant vers nous sur le pont, une femme plutôt petite et mince qui portait un grand chapeau parasol. « Ah, madame !» s'écria Selby, « vous voici. J'ai eu la chance de rencontrer un vieil ami à bord, M. Dixon Drouce, et je lui ai beaucoup parlé de vous. Je voudrais que vous fissiez connaissance. Drouce, voici Mme Sarah, dont je vous ai parlé. Et, tandis que je saluais, il nous présentait. M. Dixon Drouce, Mme Sarah. Et elle s'inclina gracieusement et me regarda avec attention. J'avais rarement vu une plus jolie femme. À côté d'elle, Mrs. Selby et sa sœur paraissaient insignifiantes. Son teint était l'idéal, sa physionomie fine, ses yeux pénétrants, intelligents, et cependant elle avait le regard innocent et franc d'un enfant. Sa mise était très simple et lui donnait l'apparence d'une toute jeune femme, et tandis que nous étions assis, causant négligemment de choses et d'autres, je sentais instinctivement que je l'intéressais au-delà de ce qu'une présentation ordinaire pouvait justifier. Peu à peu, elle détourna notre entretien, abandonnant le sujet de Selby, sa femme et sa belle-sœur, et alors, comme il s'éloignait, elle se rapprocha de moi et me dit à mi-voix « Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance, mais combien est étrange cette rencontre. Est-elle réellement accidentelle ?»« Je ne vous comprends pas, » répondis-je. « Je sais ce que vous êtes, » dit-elle en souriant. « Vous êtes le directeur de l'agence Werner. » Sa raison d'être est d'approfondir les affaires privées de gens qui préféraient les garder secrètes. « Eh bien, Monsieur Drouce, je serai tout à fait franche avec vous. J'ai une petite boutique dans le Strand, une boutique de parfumerie. Et derrière ces portes innocentes, je conduis les affaires qui me procurent ma subsistance. Est-ce que vous avez une objection, Monsieur Drouce, à ce que je continue à gagner ma vie sans faire de mal ?» « Aucune, en vérité, » répondis-je. « Vous m'étonnez en me faisant cette question. Je désire que vous visitiez ma boutique quand vous serez à Londres. J'étais absente 3 ou 4 mois. Je fais des choses étonnantes pour mes clients, et ils me payent largement. Je possède certains secrets parfaitement innocents que je ne puis confier à personne. Je les ai obtenus en partie d'Indiens et en partie de Brésiliens. Je suis allé à Para dernièrement pour approfondir certaines méthodes par lesquelles ma profession peut être perfectionnée. « Et cette profession est, » dis-je, la regardant avec quelque amusement et surprise. « Je suis une embellisseuse, » dit-elle. Elle me regarda en souriant. « Vous n'avez pas encore besoin de moi, mais le temps viendra où vous pourrez désirer retarder les stigmates des années. En attendant, devineriez-vous mon âge ?»« Je ne m'y hasarderai pas, » répondis-je. « Et je ne vous le dirai pas, » ajouta-t-elle, « que cela reste un secret. En tout cas, comprenez bien que je suis tout à fait libre, et je garde mes secrets. » « Je vous conseillerais, Monsieur Drouce, même dans l'exercice de votre profession, de ne pas vous en mêler. » L'expression enfantine s'évanouit de son visage tandis qu'elle prononçait ces derniers mots. Il me parut qu'un défi perçait dans le ton qu'elle avait pris. Elle s'éloigna quelques moments plus tard et je rejoignis mes amis. « Vous avez fait connaissance avec Madame Sarah, Monsieur Drouce, » dit Mrs. Selby. « Ne la trouvez-vous pas charmante ?»« C'est une des plus belles femmes que j'ai jamais vues, » répondis-je. Mais il paraît y avoir un mystère autour d'elle. « Oh, il y en a un, certainement, » dit Edith gravement. Elle m'a demandé si je pouvais deviner son âge, continuai-je. Je n'ai pas essayé, mais certainement elle ne peut avoir guère plus de 25 ans. « Personne ne sait son âge, » dit Mrs. Selby, « mais je vous rapporterai un fait curieux que peut-être vous ne croirez pas. Elle était demoiselle d'honneur au mariage de ma mère il y a 30 ans. D'ailleurs, elle prétend qu'elle ne change pas et ne craint pas les années. Sérieusement ? M'écriai-je, mais c'est impossible. Son nom est sur le registre de l'état civil de cette époque. C'était déjà une mystérieuse personne alors, et je crois qu'elle avait une grande puissance sur ma mère qui la connaissait bien. Mais de cela, je ne suis pas certaine. En tout cas, Edith et moi l'adorons, n'est-ce pas, Edith ? Elle posa la main affectueusement sur le bras de sa sœur. Edith Dallas ne répondit pas, mais sa figure avait une expression soucieuse. Un moment après, elle dit ces mots. « Madame Sarah est surnaturelle, effrayante. » Il n'y a peut-être pas de profession au monde, pas même celle d'homme de loi, qui porte plus de soupçons que la mienne. Je hais le mystère en tout, et je sentais maintenant que cette femme était un mystère. Je l'intéressais, cela ne faisait pas de doute, et en cherchant la cause, j'arrivais à penser qu'elle avait peut-être peur de moi. Le reste de notre voyage se passa assez agréablement. Plus je voyais Mrs. Selby et sa sœur, plus elles me plaisaient. Elles étaient calmes, simples et sans détour. J'étais certain qu'elles étaient toutes deux de très bonnes personnes. Nous nous séparâmes à Waterloo Jack, sa femme et sa sœur allant à leur hôtel d'Eaton Square, et moi réintégrant mes pénates à St. John's Wood. J'avais une maison avec un long jardin, à l'extrémité duquel était mon laboratoire, le laboratoire dont j'étais si fier, parce qu'il était, j'en étais convaincu, le meilleur de Londres. Là, je passais tous mes loisirs, faisant des expériences, essayant telle ou telle combinaison chimique, vivant dans l'espoir de faire de grandes choses un jour, car l'agence Werner ne devait pas être la fin de ma carrière. Cependant, mes occupations actuelles m'intéressaient tout à fait, et je n'étais pas fâché de retourner à mes rébus commerciaux. Le lendemain, juste au moment où je partais pour mes affaires, Jacques Selby me fut annoncé. « J'ai besoin de votre aide, » dit-il. « J'ai déjà essayé d'une façon générale d'avoir des renseignements au sujet de mon beau-père, mais en vain. Il n'y a personne de ce nom sur le bottin. Pouvez-vous me mettre sur le chemin de la découverte ?» Je lui dis que c'était possible s'il me laissait l'affaire entre les mains. « Avec plaisir, » me dit-il. « Vous voyez où nous en sommes. Ni Edith ni Bill ne peuvent avoir d'argent régulièrement jusqu'à ce que l'homme soit trouvé. Je ne puis imaginer pourquoi il se cache. » « Je vais, lui dis-je, mettre des annonces dans les colonnes personnelles des journaux, et il demanderait que toute personne à même de fournir des renseignements veuille bien s'adresser à moi. Je donnerai aussi mes instructions à toutes nos succursales, de même qu'à tous mes aides principaux ici, à Londres, afin qu'ils se tiennent en éveil. Vous pouvez être certain que dans une semaine ou deux, nous serons pleinement renseignés à son sujet. » Selby parut content de cette proposition, et m'ayant prié d'aller voir sa femme et sa sœur, aussitôt que possible, il prit congé. Le même jour, les annonces furent rédigées et envoyées aux journaux et agents, mais les semaines succédèrent aux semaines sans le moindre résultat. Selby devint très nerveux de ce retard. Il était content qu'en ma présence et insistait pour que je vienne le voir toutes les fois que je le pouvais. J'étais heureux de le faire, car je m'intéressais à lui et aux siens. Quant à Madame Sarah, je ne pouvais pas l'oublier. Un jour, Mrs. Selby me dit « Êtes-vous allé voir Madame Sarah ? Je sais qu'elle voudrait vous montrer sa boutique. J'ai promis de lui rendre visite, dis-je, mais je n'en ai pas encore eu le temps. Voulez-vous venir avec moi demain matin ?» me demanda Edith tout à coup. Elle rougit tandis qu'elle parlait, et l'expression soucieuse et mal à l'aise de sa physionomie s'accentua. J'avais remarqué depuis quelque temps qu'elle était nerveuse et paraissait inquiète. J'avais pour la première fois noté cette particularité à bord du Norham Castle. Mais avec le temps, cet état, au lieu de diminuer, empira et son expression devint hagarde. Elle sursautait à tout instant et le nom de Madame Sarah n'était jamais prononcé en sa présence sans qu'elle donnât les marques d'une émotion extraordinaire. « Voulez-vous venir avec moi ? » dit-elle avec empressement. Je promis immédiatement et le jour suivant, vers 11 heures, Edith Dallas et moi étions dans un hansom nous rendant chez Madame Sarah. Nous y arrivâmes en peu d'instants et trouvâmes un magasin sans prétention, enserré entre la boutique d'un chemisier et celle d'un papetier. Dans les vitrines s'entassaient en pyramide des flacons de parfums fermés de bouchons à multiples facettes, ornés de faveurs de couleur. Nous descendîmes et fîmes notre entrée. À l'intérieur, il y avait 2 marches, puis une porte d'acajou plein. « Voici l'entrée de ces appartements privés, » dit Edith. Et elle me montra une petite plaque de cuivre sur laquelle était écrit « Madame Sarah ». Parfumeuse. Edith pressa le bouton d'une sonnette électrique et la porte fut tout de suite ouverte par un groom en élégante livrée. Il regarda Miss Dallas comme s'il la connaissait très bien et dit « Madame vous attend, mademoiselle. » Il nous introduisit dans une chambre à l'aspect tranquille, sobrement mais fort bien meublée. Il nous laissa et ferma la porte. Edith se tourna vers moi. « Savez-vous où nous sommes ? » dit-elle. « Nous sommes à présent dans une petite chambre située juste derrière la boutique de Madame Sarah, » répondis-je. « Pourquoi êtes-vous si surexcitée, Miss Dallas ? Qu'avez-vous ? » ?»« Nous sommes sur le seuil de la demeure d'un magicien, » répondit-elle. « Nous serons bientôt face à face avec la femme la plus merveilleuse de Londres. Il n'y a personne de semblable à elle. »« Et vous la craignez ? » demandai-je en baissant la voix. Elle sursauta, recula et ne reprit possession d'elle-même qu'avec une grande difficulté. À ce moment, le groom rentra et nous conduisit à travers différentes petites salles. Puis nous nous trouvâmes en présence de Madame Sarah. « Ah ! » dit-elle en souriant. « Voici qui est charmant. « Vous avez tenu parole, Edith, et je vous suis très obligé. Je vais maintenant montrer à Monsieur Drouze quelques-uns des mystères de ma profession. Mais il est entendu, monsieur, que je ne vous dévoilerai aucun de mes secrets réels. Je vous ferai seulement connaître un peu de ce que vous désirez savoir sur mon compte. Comment pouvez-vous dire que je désire savoir quelque chose sur votre compte ? Répliquai-je. Elle me jeta un regard profond qui m'étonna et me dit alors : Savoir est pouvoir. ne refusez pas ce que je veux bien vous donner. Et dites, vous n'aurez pas d'objection à attendre ici, tandis que je montrerai mes pièces à M. Drousse. Remarquez d'abord cette chambre, M. Drousse. Elle est seulement éclairée d'en haut. La porte se ferme d'elle-même, de telle sorte que l'entrée du dehors est impossible. C'est le sanctum des sanctums. Un vague parfum remplit la chambre, vous sentez? Il fait chaud, aujourd'hui, mais la pièce reste fraîche. Que pensez-vous de tout cela? Je ne répondis pas. Elle s'avança vers l'autre bout et me fit signe de la suivre. Il y avait là une table de chêne polie, sur laquelle se trouvaient assemblés des objets extraordinaires, des miroirs simples et concaves, des brosses, des vaporisateurs, des éponges, des instruments délicats en acier brillant se terminant en aiguilles, de mini-lancettes et des forceps. En face de cette table se trouvait une chaise semblable à celle dont se servent les dentistes. Au-dessus de la chaise pendaient des lampes électriques sous de puissants réflecteurs et des lentilles comme des lanternes dites en œil de bœuf. Une autre chaise, sur un piédestal, était là pour administrer de l'électricité statique. Il y avait des batteries sèches pour courant continu et des spirales en induction pour courant faradique. Il y avait aussi des aiguilles de platine servant à épiler. Madame Sarah me conduisit de cette chambre à une autre, où je trouvais un assemblage d'instruments plus formidable encore. Là, il y avait une table d'opération, du chloroforme et d'autres appareils. Quand j'eus tout regardé, elle se tourna vers moi. « Maintenant, vous savez, dit-elle, je suis docteur, peut-être fantaisiste, mais par le moyen de mes secrets, je vis et prospère. » Elle me tourna le dos et passa dans l'autre chambre avec la marche légère de la jeunesse. Edith Dallas, pâle comme une morte, nous attendait. « Vous avez fait votre devoir, mon enfant, » dit Madame Sarah. « Monsieur Drousse a vu juste ce que je désirais qu'il vît. »« Je vous suis très obligé à tous deux. Nous nous reverrons ce soir, à la soirée de Lady Farringdon. Jusque-là, portez-vous bien. » Lorsque nous nous retrouvâmes dans la rue, pendant que nous roulions vers Eaton Square, je dis à Edith, « Il y a bien des choses qui m'intriguent au sujet de votre amie, mais peut-être une plus que les autres. » Par quel moyen une femme qui a voulu tenir une boutique a-t-elle accès dans les meilleures maisons de Londres? Pourquoi la société ouvre-t-elle ses portes à cette femme, Miss Dallas? Je ne puis pas vous le dire au juste, répondit-elle. Je sais seulement que partout où elle va, elle est non seulement bien reçue, mais traitée avec considération, et là où elle ne paraît pas, son absence est unanimement regrettée. J'avais aussi été invité à la soirée de Lady Farringdon, et j'y allais avec beaucoup de curiosité. Il n'y avait pas de doute que Madame Sarah m'intéressait. Je n'étais pas sûr d'elle. Sans nul doute, il y avait un mystère autour d'elle, et pour une raison inexplicable, elle désirait me ménager, en même temps qu'elle paraissait me défier. Pourquoi cela? J'arrivais de bonne heure et me tenais en haut de l'escalier dans la foule lorsque Madame Sarah fut annoncée. Elle portait une magnifique robe de satin et une profusion de diamants. Je vis notre hôtesse se pencher vers elle et lui parler avec empressement. Je remarquai que sur la réponse de Madame Sarah, la physionomie de Lady Farrington prit une expression de satisfaction. Quelques minutes plus tard, un homme d'aspect étranger, portant une longue barbe, s'assit au piano. Il préluda légèrement et Madame Sarah commença à chanter. Sa voix était douce et grave et avait une expression extraordinaire. C'était ce genre de voix qui vous pénètre jusqu'au cœur. Il y eut un arrêt instantané dans le gai bavardage. On l'écouta dans un silence parfait, et quand le chant eut pris fin, il y eut un fourroré d'applaudissements. J'étais sur le point de me tourner vers mon voisin pour lui parler, quand je remarquai Edith Dallas qui se tenait debout près de moi. Ses yeux rencontrèrent les miens, elle posa la main sur mon bras. « Il fait très chaud, » dit-elle, suffoquant à moitié, tandis qu'elle parlait. « Menez-moi sur le balcon. » Je l'y menais. L'atmosphère du salon était presque intolérable, mais il faisait comparativement frais dehors. « Il ne faut pas que je la perde de vue, » dit-elle soudainement. « Qui ? » demandai-je, étonné par ces mots. « Sarah, » dit-elle, « vous pouvez la voir d'où vous vous tenez. » Nous étions seuls. Je m'approchai un peu d'elle. « Pourquoi avez-vous peur d'elle ? » demandai-je. « Êtes-vous sûr que nous ne serons pas entendus ? » répondit-elle. « Certain. » « Elle me terrifie. » « Je ne trahirai pas votre secret, Miss Dallas. Voulez-vous vous confier à moi ? Vous devriez me donner la raison de vos craintes. » « Je ne puis pas, je n'ose pas. J'en ai déjà trop dit. Ne me retenez pas, Monsieur Drousse. Il ne faut pas qu'elle nous trouve ensemble. » En parlant, elle se fraya un passage à travers la foule, et avant que j'eusse pu l'arrêter, elle était près de Madame Sarah. La réception à Portland Place eut lieu, je me souviens, le 26 juillet. Deux jours après, les Selby devaient donner leur soirée d'adieu avant de partir pour la campagne. J'étais naturellement invité et Madame Sarah était là aussi. Elle n'avait jamais été mieux habillée et n'avait jamais paru plus jeune et plus belle. Chacun suivait des yeux tous ses mouvements tant elle avait d'attrait. Généralement, sa mise était simple, presque semblable à celle d'une jeune fille, mais ce soir-là, elle avait fait choix d'étoffes orientales aux couleurs variées et l'été étincelante de pierreries. Ses cheveux d'or étaient étoilés de diamants. Autour du cou, elle portait également des diamants mélangés de turquoise. Il y avait dans la réunion bien des femmes plus jeunes que Madame Sarah. Mais ni les plus jeunes, ni les plus belles ne pouvaient lui être comparées. Elle ne possédait pas seulement la beauté, elle avait un charme auquel on ne pouvait résister. Je vis Miss Dallas, mince, grande et pâle, se tenant non loin d'elle. Je me dirigeais de son côté. Avant que j'aie eu le temps de lui parler, elle se pencha vers moi. « N'est-elle pas divine ? » murmura-t-elle. « Elle étourdit et charme tout le monde. Elle fait la conquête de Londres. »« Alors vous n'avez pas peur d'elle ce soir ? » demandai-je. « Je la crains plus que jamais. Elle me tient. Mais écoutez, elle va encore chanter. » Je n'avais pas oublié l'impression que m'avait faite Madame Sarah le jour où je l'avais entendue chez Lady Farringdon. Edith était silencieuse et attentive. Il y eut un chute général dans le salon. La voix s'éleva au-dessus des hôtes assemblés et fit entendre une douce berceuse espagnole. Edith me dit que Madame Sarah se vantait, à l'aide de ce chant seul, de pouvoir guérir les malades qui s'adressaient à elle lorsqu'ils souffraient d'insomnie. « Elle leur chante cette mélodie, dit-elle, et les force au sommeil. » Puis, s'interrompant, « Ah, il ne faut pas que nous parlions, elle nous entendrait. » Avant que j'aie pu répondre à cette étrange communication, Selby s'avança vivement vers moi. Il n'avait pas remarqué, Edith. Il me prit par le bras. « Venez une minute à cette fenêtre, Dixon. J'ai besoin de vous parler. Je suppose que vous n'avez pas de nouvelles de mon beau-frère. »« Aucune, » répondis-je. « Pour vous dire la vérité, je suis terriblement ennuyé à ce sujet. Nous ne pouvons pas régler les questions d'argent parce qu'il convient à cet homme de rester introuvable. Les avoués de ma femme ont câblé au Brésil hier, mais ses banquiers eux-mêmes ne savent rien à son sujet. « Il n'y a là qu'une question de temps, » répondis-je. « Quand partez-vous pour le Hampshire ?»« Samedi. » En prononçant ces mots, Selby jeta un regard autour de lui, puis, baissant la voix, « Il faut que je vous dise autre chose. » Plus je la vois, et de la tête il me désigna Madame Sarah, moi elle me plaît. Edith est dans un état étrange, l'avez-vous remarqué? Et le pire est que cela gagne ma femme. Je suppose que c'est le truc de cette femme pour replâtrer les gens et les embellir. Sans doute la tentation est trop forte dans le cas d'une femme laide, mais Béatrice est jeune et belle, que peut-elle avoir besoin de cosmétiques et de pilules pour le teint? « Vous ne venez pas me dire que votre femme a consulté Madame Sarah comme docteur ?»« Pas exactement, mais elle y est allée, pour ses dents. Elle s'est plainte d'un mal de dents dernièrement, et Madame Sarah est célèbre comme dentiste. Edith va constamment la voir pour une chose ou pour une autre. Mais aussi Edith en est infatuée. » En disant ces mots, il me quitta pour aller vers quelqu'un d'autre, et avant de me retirer de la fenêtre, j'aperçus Edith Dallas et Madame Sarah en conciliabule. Je surpris les mots suivants. « Ne venez pas demain. Allez à la campagne aussitôt que possible. C'est certes la meilleure chose à faire. » Au moment où elle prononçait ces mots, Madame Sarah m'aperçut. Elle s'inclina et me lança ce regard particulier de défi que j'avais déjà remarqué sur sa physionomie. Cela me mit mal à l'aise, et durant la nuit, je ne pus me débarrasser de l'impression qu'il m'avait fait. Je me souviens de ce que Selby m'avait dit au sujet de sa femme et de ses affaires d'argent. Sans aucun doute, il s'était marié mystérieusement, mais Madame Sarah devait être au courant de tout. Il s'agissait d'une énorme somme et il peut se produire des choses étranges quand des millions sont en jeu. Le lendemain matin, je venais de me lever et j'étais en train de déjeuner quand on me remit une lettre. Elle était venue par un messager spécial et était marquée « Urgente ». Je l'ouvris et voici ce qu'elle contenait. « Mon cher Drousse, un coup terrible vient de nous frapper. Ma belle-sœur, Edith, s'est tout à coup senti mal ce matin en déjeunant. Le docteur le plus proche a été appelé immédiatement, mais il n'a rien pu faire et elle est morte, il y a une heure. Venez me voir. Et si vous connaissez quelques spécialistes, amenez-le. Ma femme est terriblement affectée par ce malheur. Votre Jack Selby. » Je relus la lettre deux fois avant de comprendre ce qu'elle signifiait. Alors, je m'élançai dans la rue, j'appelai un hansom et me fis conduire aussi vite que possible 192 Victoria Street. Là demeurait un certain Eric Vandeleur, un vieil ami à moi, médecin légiste du district de Westminster, comprenant Eaton Square. Il n'y avait pas d'homme plus profond, plus habile que Vandeleur, et le cas actuel étant essentiellement de son ressort au point de vue légal et professionnel. Il n'était plus à son appartement quand j'arrivais, étant déjà parti pour le palais. Je m'y fis conduire en toute hâte, et l'on m'informa qu'il était aux enregistrements mortuaires. Pour un homme vivant dans une atmosphère perpétuelle de crimes et de violence, sa nature et ses manières étaient restées remarquablement gaies et vivantes. Peut-être sa vie privée n'était-elle que la réaction de ses travaux, car il avait la réputation d'être l'un des experts les plus retors en matière de jurisprudence médicale et, disait-on, le plus habile analyste dans les cas toxicologiques de la police métropolitaine. Avant que j'aie pu lui faire dire que je désire le voir, j'entendis le claquement d'une porte et Vandeleur s'avança dans le couloir au pas de course, enfilant son par-dessus tout en marchant. « Allô ! » s'écria-t-il. « Je ne vous ai pas vu depuis des éternités. Avez-vous besoin de moi ?»« Oui, pour un cas très urgent, » répondis-je. « Êtes-vous occupé ?»« Jusqu'à ne plus savoir où donner de la tête, mon bon. Je ne puis pas vous donner un moment maintenant, mais peut-être plus tard. » »« Qu'y a-t-il ? Vous avez l'air surexcité. » « Il faut que j'aille à Eaton Square, comme le vent. Mais venez avec moi, si vous voulez. Vous me parlerez en chemin. »« C'est parfait, » m'écriai-je. « Le cas a déjà été dénoncé, alors. Vous allez chez Selby au numéro 34. Bien, je vais avec vous. » Il me regarda stupéfait. « Mais le cas vient seulement d'être rapporté. Que pouvez-vous savoir là-dessus ? » ?»« Tout. Prenons ce hansom, et je vous mettrai au courant en chemin. » En roulant vers Eaton Square, j'expliquai vivement la situation. Regardant de temps en temps la figure brillante de Vandeleur, le malin conteur du dernier racontard de club, Vandeleur, le médecin légiste, à la figure impénétrable, à la mâchoire inférieure avançant légèrement et aux traits immobilisés. « La chose promet d'être sérieuse, dit-il, comme je finissais. Mais je ne puis rien faire jusqu'à l'autopsie. Nous voici arrivés et mon homme nous attend. Il agit promptement. » Sur les marches se tenait un homme en uniforme qui salua. « Officier du coroner, » expliqua Vandeleur. Nous entrâmes dans la maison silencieuse et sombre. Selby se trouvait dans le hall. Je le présentai à Vandeleur, et il nous conduisit immédiatement dans la salle à manger où nous trouvâmes le docteur Osborne que Selby avait fait appeler lorsque l'alarme avait été donnée par l'indisposition d'Edith. Le docteur Osborne était un jeune homme pâle, un peu au-dessous de la taille moyenne. Sa physionomie exprimait une vive anxiété. Vandeleur, cependant, s'arrangea pour le mettre à son aise. « Nous causerons peu dans quelques minutes, docteur Osborne, dit-il. Mais d'abord, je dois recevoir le rapport de M. Selby. Voulez-vous me dire, monsieur, ce qui s'est passé ?»« Certainement, répondit-il. Nous avons eu une réception hier soir et ma belle-sœur ne s'est retirée que tard ce matin. Elle était d'humeur sombre, mais somme toute en bonne santé. Ma femme alla la voir lorsqu'elle fut couchée. Elle me dit qu'elle avait trouvé Edith dans une crise nerveuse, mais n'avait pu lui en faire dire la cause. Nous avions parlé de l'emmener à la campagne sans retard. De fait, notre intention était de partir cet après-midi. « Bien, » dit Vandeleur. Nous déjeunâmes à 9h30 et Miss Dallas descendit, paraissant aussi bien que de coutume et de bonne humeur, en apparence du moins. Elle mangea avec appétit, et il se trouva que ma femme et elle prirent du même plat. Le repas tirait à sa fin quand elle se leva brusquement de table, poussa un cri perçant, devint très pâle, porta la main à son côté et sortit de la pièce en courant. Ma femme la suivit immédiatement. Elle rentra au bout d'une minute ou deux. Elle me dit qu'Edith souffrait beaucoup et me priait d'envoyer chercher un docteur. Le docteur Osborne demeure tout près. Il vint immédiatement, mais elle mourut tout de suite après son arrivée. « Vous étiez dans la pièce ?» demanda Vandeleur, se tournant vers Osborne. « Oui, » reprit-il. Elle conserva connaissance jusqu'au dernier moment et mourut subitement. Vous a-t-elle dit quelque chose ? Non. Seulement elle m'assurait qu'elle n'avait rien pris ce jour-là avant le déjeuner. Après sa mort, j'envoyai dénoncer le cas sans retard, je fermai la porte de la chambre où se trouve le corps de la pauvre jeune femme et pris soin que personne ne touchât à quoi que ce soit sur la table. Vandeleur sonna. Un domestique parut. Il donna des ordres rapides. Les restes du repas furent enlevés et mis de côté. Alors, Vandeleur et l'officier du coroner montèrent. Lorsque nous fûmes seuls, Selby s'affaissa sur une chaise, sa figure était décomposée et hagarde. C'est l'horrible soudaineté de la chose qui est épouvantable, s'écria-t-il. Pour ce qui est de Béatrice, je ne crois pas qu'elle redevienne jamais la même qu'auparavant. Elle était très attachée à sa sœur. Edith était de 10 ans plus âgée et lui a servi de mère. Voici un triste commencement à notre vie. Je puis à peine réunir mes idées. Je restai avec lui quelques moments, et comme Vandeleur ne revenait pas, je retournai chez moi. Là, je ne pus me mettre à rien, et quand Vandeleur me téléphona vers 6 heures, je me hâtai d'aller le trouver. Dès que j'arrivai, je vis que Selby était avec lui, et l'expression de leur physionomie me dit la vérité. « C'est une triste affaire, » dit Vandeleur. « Miss Dallas est morte empoisonnée. Une analyse complète a été faite, et un poison puissant, inconnu aux toxicologues européens, a été trouvé. Ceci est assez étrange, mais la façon dont il a été administré est un problème. Je confesse que pour le moment, nous sommes battus. Il n'était certainement pas dans les restes du repas, et nous avons le témoignage donné par la victime en mourant qu'elle n'a rien pris d'autre. Maintenant, un poison d'une puissance aussi terrible ferait son effet promptement. Il est évident qu'elle était très bien quand elle est descendue déjeuner et que le poison n'a commencé à travailler que vers la fin du repas. Comment l'a-t-elle pris? J'éluciderai cette question plus tard. La plus pressée est celle-ci. La situation est sérieuse en vue des questions d'argent et de la valeur qu'avait la vie de la victime. Le simple aspect du cas, la raison parfaitement saine de la jeune femme et son affection pour sa sœur exclut presque absolument l'idée d'un suicide. Nous devons par conséquent parler de meurtre. Cette malheureuse femme est frappée par un assassin et avec une telle habileté que ni traces ni indices ne peuvent être découverts. Pour un acte semblable, il doit y avoir un motif puissant, et la personne qui l'a conçu et exécuté doit être un criminel de premier ordre comme habileté scientifique. M. Selby m'a dit l'exacte position financière de la pauvre victime et aussi celle de sa jeune femme. La disparition absolue du beau-frère, vu sa réputation, est étrange au plus haut point. Sachant comme nous le savons qu'entre lui et 2 millions, il y avait 2 vies, une vient d'être prise. Une sensation de froid me saisit lorsque Vandeleur prononça ces mots. Je regardais Selby, il était blême, et ses yeux étaient fixes, comme s'il voyait quelque chose qui le terrifiait. « Ce qui est arrivé une fois peut arriver encore, » continua Vandeleur. « Nous sommes en présence d'un mystère, et je vous conseille, M. Selby, d'exercer toute la vigilance possible pour garder votre femme. » Ces mots, venant d'un homme de la position de Vandeleur, étaient suffisamment effrayants pour moi, mais pour Selby être solennellement prévenu que la jeune et jolie femme qu'il venait d'épouser et quittait tout le monde pour lui courait le danger d'être assassinée était terrible en vérité. Il se cacha la figure dans les mains. « Miséricorde ! » s'écria-t-il. « Est-ce là un pays civilisé dans lequel la mort circule ainsi, invisible, inévitable ? Dites-moi, monsieur Vandeleur, que dois-je faire ?»« Laissez-moi vous guider, » dit Vandeleur, « et croyez-moi, il n'y a pas de sorcellerie en ce monde. » « Je mettrai un policier dans votre maison, tout de suite. Ne vous alarmez pas, il viendra vêtu comme tout le monde et vous servira de domestique. Cependant, rien ne pourra être fait par votre femme sans qu'il le sache. Pour ce qui est de vous, Drouze, continua-t-il en se tournant vers moi, la police fait tout ce qu'elle peut pour mettre la main sur Silva. Et je désire que vous l'aidiez par votre agence, tout de suite. Laissez-moi avec votre ami. Télégraphiez-moi instantanément si vous avez des nouvelles. Vous pouvez compter sur moi, dis-je. Et un moment après, je quittai la pièce. En m'en allant rapidement, je songeais à Madame Sarah, à sa boutique, à ce mystérieux arrière-plan, à ses instruments de chirurgie, à ses tables d'opération. Les spirales à induction me revinrent à l'idée. Mais que pouvait avoir de commun Madame Sarah avec ce mystère étrange, inexplicable? La pensée m'avait à peine traversé l'esprit que j'entendis une voiture s'approcher du trottoir. Mon nom fut prononcé, et me retournant, je vis Madame Sarah dans une Victoria à 2 chevaux. Je m'avançai. Je vous ai vu passer, Monsieur Drouze. Je viens juste d'apprendre la triste nouvelle. J'en suis profondément affecté. Je suis passé chez les Selby, mais on n'a pas voulu me recevoir. Savez-vous de quoi elle est morte? Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'elle parlait. Je n'ai pas, madame, la liberté de dire ce que j'ai appris, répondis-je, étant moi-même compris officiellement dans l'affaire. Ses yeux se fermèrent. Les larmes se séchèrent comme par magie, son regard devint dédaigneux. « Merci, » dit-elle. « Votre réponse me dit qu'elle n'est pas morte naturellement. Comme c'est épouvantable. mais je ne dois pas vous retenir. Puis-je vous conduire quelque part ? Non, merci. Adieu, alors. » Elle fit un signe au cocher, et comme la voiture s'éloignait, elle se retourna pour regarder. Sa physionomie avait l'expression de défi que j'avais remarqué plus d'une fois. Pouvait-elle être associée à la chose ? La pensée m'en vint, avec une violence qui touchait presque à la conviction. Cependant, je n'avais aucune raison pour le croire. Aucune, vraiment. Trouver maintenant Henri Joachim Silva était ma pensée principale. Mes aides avaient ordre de faire toutes les recherches possibles avec la promesse de fortes récompenses. Les annonces furent répandues largement. On communiqua par le câble avec les succursales des autres agences du Brésil et tous les moyens de Scotland Yard furent mis en usage. Il n'y eut aucun résultat. Les journaux s'occupèrent de l'affaire. Il y eut des paragraphes dans la plupart au sujet du beau-frère disparu et de la mort mystérieuse d'Edith Dallas. Alors un d'entre eux s'empara de l'histoire du testament. Elle fut détaillée et agrémentée pour le bénéfice du public. À l'enquête, le jury prononça le verdict suivant. Nous trouvons que Miss Edith Dallas est morte des suites de l'absorption d'un poison de nom inconnu, mais il est impossible jusqu'à présent de savoir par qui et comment ce poison lui fut administré. Cet état de choses peu satisfaisant devait cependant changer soudainement. Le 6 août, pendant que j'étais à mon bureau, une note me fut remise par un messager particulier. Elle était ainsi conçue. Norfolk, Hôtel Strand. Monsieur. Je viens d'arriver du Brésil et j'ai pris connaissance de vos annonces. J'étais sur le point d'en insérer une moi-même afin de découvrir la demeure de mes deux sœurs. Je suis malade et incapable de quitter ma chambre. Pouvez-vous venir me voir sans retard ? Votre etc. Henri Joachim Silva. Dans un état de violente agitation, j'envoyais deux télégrammes en toute hâte, l'un à Selby, l'autre à Vandeleur, les priant de venir me trouver dès que possible. Ainsi l'homme venait seulement d'arriver en Angleterre. La position était plus étrange que jamais. Une chose en tout cas était probable, la mort d'Edith Dallas n'était pas due à son demi-frère. Un peu après 6 heures, Selby arriva et Vandeleur le suivit 10 minutes plus tard. Je leur dis ce qui était arrivé et leur montrai la lettre. Quelques instants après, nous étions à l'hôtel et en me nommant, nous fûmes introduits dans un salon du premier étage par le domestique de Silva. Reposant dans un fauteuil, nous trouvâmes un homme dont la figure était terriblement émaciée. Les yeux et les joues étaient tellement creusés qu'on eût dit une tête de squelette. Il ne fit pas l'effort de se lever à notre entrée et nous regarda, l'un après l'autre avec le plus complet étonnement. Je me présentai immédiatement. Il lui expliquait qui nous étions. Il fit alors de la main un signe à son domestique de se retirer. « Vous avez appris la nouvelle, sans doute, monsieur Silva, » dis-je. « La nouvelle, quelle nouvelle ?» Il me regarda et sembla deviner quelque chose sur ma figure. Il se rejeta en arrière. « Grand Dieu » dit-il, « faites-vous allusion à mes sœurs ? Dites-moi vivement, sont-elles vivantes ? Votre sœur, la plus âgée, est morte, le 29 juillet, et il y a toute raison de croire par la main d'un assassin. » Comme je prononçais ces mots, le changement qui se fit dans sa physionomie fut terrible à voir. Il ne dit rien, il resta sans mouvement. Ses mains, telles que des griffes, se crispèrent au bras du fauteuil. Les yeux étaient fixes et lui sortaient de la tête. Son teint était devenu terreux. J'entendis Selby respirer fortement derrière moi et Vandeleur s'avança vers l'homme. Lui mettant la main sur l'épaule, il lui dit brusquement « Dites-nous ce que vous savez de cette affaire. » Revenant à lui avec effort, le malade commença d'une voix tremblante. « Écoutez attentivement, car il faut que vous agissiez vite. Je suis indirectement responsable de cette chose horrible. Ma vie a été sauvage et folle, et maintenant je suis mourant. Les docteurs me disent que je ne puis vivre un mois, car j'ai un anévrisme du cœur. Il y a 18 mois, j'étais à Rio. Je menais la grande vie et je jouais beaucoup. Parmi mes compagnons de jeu, il y en avait un beaucoup plus âgé que moi. Son nom était José Arrojo. Il était, si possible, plus joueur que moi. Un soir, nous jouâmes ensemble et seuls. Les enjeux s'élevèrent jusqu'à un chiffre énorme. À l'aurore, il m'avait gagné près de 200 000 livres. Bien que je sois riche de revenus, par le testament de mon oncle, je ne pouvais pas payer la 20e partie de cette somme. Cet homme connaissait ma situation financière. Je lui remis une somme de 8 000 livres. Je fis avec lui un contrat. Il fallait que je fusse fou. Le contrat, dûment attesté par un avoué, était ainsi conçu. Dans le cas où je survivrais à mes deux sœurs et hériterais alors de toute la fortune de mon oncle, un 500 000 sterling irait à José Arrojo. Je sentais que je m'en allais alors et que mes chances d'hériter étaient minimes. Immédiatement après que ce document eût été fait, mon homme quitta Rio et j'appris sur son compte quantité de choses que j'avais ignorées jusque-là. Il avait les antécédents les plus étranges. Moitié indien, moitié italien, il avait passé de nombreuses années parmi les Indiens. J'appris encore qu'il était aussi cruel qu'habile et possédait quelques secrets extraordinaires de poisons inconnus en Occident. Je songeais beaucoup à cela, car je me rendais compte qu'en signant le contrat, j'avais mis la vie de mes sœurs entre lui et la fortune. J'allais à Para il y a 6 semaines, où j'appris qu'une de mes sœurs venait de se marier et que toutes deux étaient parties pour l'Angleterre. Malade comme je l'étais, je me déterminai à les suivre pour les prévenir. Je désirais aussi régler les affaires avec vous, monsieur Selby. Un moment, dis-je alors tout à coup. Savez-vous par hasard si cet homme, José Arrougeau, connaissait une femme du nom de madame Sarah? S'il la connaissait! S'écria Sylvain. Très bien, et du reste, moi aussi, madame Sarah et moi étions les meilleurs amis du monde, et nous rencontrions fréquemment. Elle se déclarait une ambitieuse professionnelle. Elle était très belle et possédait pour la pratique de sa profession des secrets inconnus, même à Arrougeau. Grand Dieu! M'écriai-je. Et cette femme est à Londres! Elle est revenue ici avec M. Selby et Miss Dallas. Elle avait beaucoup d'influence sur Edith, qui était constamment avec elle. À mon avis, il n'y a aucun doute, elle est coupable. Je la soupçonnais depuis quelque temps, mais je ne trouvais pas de raison. Maintenant, voici la raison. Sûrement, vous pouvez la faire arrêter. Vandeleur ne répondit pas. Il me jeta un regard étrange, puis il se tourna vers Selby. Votre femme a-t-elle consulté, Madame Sarah? Demanda-t-il brusquement. Oui, elle est allée la voir une fois pour ses dents, mais n'est pas retournée chez elle depuis la mort d'Edith. Je l'ai prié de ne pas voir cette femme, il m'a promis formellement de ne pas le faire. A-t-elle des médicaments qui lui ont été donnés par Madame Sarah? Suit-elle un traitement indiqué par cette femme? Non, j'en suis certain. Très bien, je verrai votre femme ce soir pour lui poser quelques questions. Il faut que vous quittiez Londres tout de suite. Allez à votre maison de campagne et fixez-vous-y. Je suis tout à fait sérieux en vous disant que Madame Selby est dans le plus grand danger jusqu'à la mort de son frère. Il faut maintenant que nous vous quittions, Monsieur Silva. Toute affaire d'argent doit rester en suspens pour le moment. Il est absolument nécessaire que Monsieur Selby quitte Londres sans aucun retard. J'aurai le plaisir de vous rendre visite demain matin. Nous prîmes congé du malade. Dès que nous fûmes dans la rue, Vandeleur s'arrêta. « Je dois vous laisser le soin, Selby, dit-il, de juger ce qu'il convient que vous disiez à votre femme de cette affaire. Si j'étais vous, je lui dirais tout. Le moment est venu d'agir. C'est une femme sensée et brave. À partir de cet instant, il vous faut veiller sur tout aliment ou liquide qu'elle devra prendre. Il ne faut pas que vous la perdiez de vue ou qu'elle soit hors de la surveillance d'une garde de toute confiance. Un seul instant. Je veillerai naturellement moi-même sur ma femme, mais tout cela est fait pour vous rendre fou. J'irai à la campagne avec vous, Selby, dis-je tout à coup. Ah, dit Vandeleur, c'est la meilleure chose possible, et c'est ce que j'allais vous proposer. Allez-vous-en tous par un train de bonne heure, demain. Alors je vais immédiatement faire mes préparatifs, dis-je. Je serai à Waterloo, Selby, pour le premier train, qui va à Cronsmore. Comme je l'ai quitté, Vandeleur me retint par le bras. Je suis content que vous alliez avec eux. Je vous écrirai ce soir, pour vous donner de nouvelles instructions. Ayez toujours un revolver chargé. Adieu. Par le train de 6h15, le lendemain matin, Selby, sa femme et moi, nous trouvions dans un compartiment réservé roulant vers l'ouest. Les domestiques et la femme de chambre de Madame Selby se trouvaient dans un autre compartiment. La figure de Selby portait les traces d'une nuit d'insomnie et présentait un contraste frappant avec la physionomie si fraîche et si claire de la jeune femme autour de laquelle se déroulait ce drame étrange. Son mari lui avait tout dit, et bien que souffrante encore du coup et du chagrin que lui infligeait la mort de sa sœur, elle paraissait calme et dispose. Une voiture nous attendait à Cronsmore, et vers 9h30, nous étions dans la vieille demeure des Selby, cachée sous les chênes et les aunes. Tout fut fait pour rendre la demeure familiale aussi gaie que les circonstances le permettaient. Mais une inquiétude insurmontable tourmentait Selby lui-même. Il pouvait à peine prendre sur lui de s'intéresser à quoi que ce soit. Le lendemain matin, je reçus une lettre de Vandeleur. Elle était très courte et me recommandait les plus grandes précautions. Il disait que 2 médecins avaient examiné Silva et qu'ils avaient déclaré qu'il ne pouvait vivre 1 mois. Jusqu'à sa mort, les précautions devaient être strictement observées. Le ciel était sans nuage et après le déjeuner, je sortais pour me promener lorsque le maître d'hôtel me remit un télégramme. Je l'ouvris, il était devant de l'heure. « Défendez tout aliment jusqu'à mon arrivée, je viens. » Je me hâtai d'aller dans la bibliothèque et le remis à Selby. Il le lut et me regardant. « Voyons donc l'heure à laquelle arrive le premier train, mon bon. Espérons que ceci indique la fin de cette hideuse histoire. » J'allais dans le hall et regardais l'indicateur. Le premier train arrivait à Cronsmore à 10h45. Je me rendis alors aux écuries et commandai une voiture, après quoi je filai 100 pas dans l'allée. Il était certain que quelque chose de sérieux s'était produit. L'arrivée si soudaine de Vandeleur faisait présager l'éclaircissement du mystère. Je venais de passer la porte de la loge et attendais quand j'entendis un roulement de voiture et le bruit de chevaux s'approchant au galop. Les grilles s'ouvrirent et Vandeleur, dans une voiture de louage, entra à toute allure. Avant que j'aie pu revenir de ma surprise, il était descendu et se trouvait à côté de moi. Il avait un petit sac à la main. « Je suis venu par train spécial, » dit-il, parlant très vite. « Il n'y a pas un moment à perdre. Venez vite. Madame Selby est-elle bien ?»« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demandai-je. « Naturellement, elle est bien. Supposez-vous qu'elle soit en danger ?»« De mort !» fut sa réponse. « Venez !» Nous courûmes vers la maison ensemble. Selby, qui nous avait entendus, vint au-devant de nous. « Monsieur Vandeleur, s'écria-t-il, qu'y a-t-il ? Comment êtes-vous venu ?» Par train spécial, monsieur Selby, et il faut que je voie votre femme tout de suite. Il sera nécessaire que je fasse une opération insignifiante. Opération, fit-il. Oui, tout de suite. Nous traversâmes le hall et entrâmes dans le bureau où Mrs. Selby était très occupée à son courrier. Elle sursauta lorsqu'elle vit Vandeleur et eut une exclamation de surprise. Ne vous effrayez pas, car je viens pour dissiper vos craintes. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous avez rendu visite à madame Sarah avec votre sœur, « Avez-vous reçu ces soins comme docteur ?» Le rouge lui monta au visage. « J'avais mal à une dent, » répondit-elle. « Elle est, comme vous savez, un dentiste étonnant. » Elle examina la dent, trouva qu'il fallait la plomber et fit faire l'opération par un assistant, un Brésilien, je crois. « Et vous n'avez pas souffert de cette dent depuis ?»« Non, plus du tout. Elle fit plomber une dent d'élite en même temps. »« Voulez-vous avoir la bonté de vous asseoir et de me montrer la dent plombée ?» Elle s'assit. « Celle-ci, » dit-elle, montrant une dent de la mâchoire inférieure. « Que voulez-vous dire ? Y a-t-il quelque chose de mal ?» Vandeleur examina la dent longtemps et avec soin. Il eut un mouvement soudain de la main, et Mrs. Selby poussa un cri aigu. Avec l'habileté que lui donnait une longue pratique et son vigoureux poignet, il avait extrait la dent en un tour de main. La soudaineté de la chose, aussi surprenante qu'elle fût, n'était pas aussi étrange que ce qu'il fit après. « Envoyez Madame Selby, sa femme de chambre !» dit-elle en se tournant vers Selby, et venez tous deux dans la pièce à côté. La femme de chambre fut appelée auprès de Mrs. Selby. La pauvre femme s'affaissa sur une chaise, à demi évanouie et terrifiée. Un moment après, Selby nous rejoignit dans la salle à manger. « C'est bien, » dit Vandeleur, « fermez la porte, voulez-vous ? » Il ouvrit son sac noir et en tira plusieurs instruments. Avec l'un d'eux, il détacha le plombage de la dent. Il était tout à fait mou et se défit aisément. Alors, du même sac, il tira un cochon d'Inde qu'il me pria de tenir. Il enfonça l'instrument dans la dent, ouvrit la gueule du petit animal, en mit la pointe sur sa langue. L'effet fut instantané, la petite bête s'affaissa sur ma main. Le cochon d'Inde était mort. Vandeleur était pâle comme un linge. Il se tourna vers Selby et lui serra la main. « Dieu merci, dit-il, je suis arrivé à temps, mais seulement juste à temps. Votre femme est sauvée. Ce plombage aurait à peine tenu une autre heure. J'ai songé toute la nuit à ce mystère de la mort de votre belle-sœur et à chaque détail, aussi minime qu'il fût, de la façon dont le poison pouvait lui avoir été administré. » Soudain, la coïncidence des deux sœurs ayant leurs dents plombées me frappa comme étant extraordinaire, et la solution me vint avec la rapidité de l'éclair. Plus je la considérais, plus je la trouvais juste. Mais par quelle diabolique intelligence un tel plan a-t-il été conçu et exécuté ? C'est ce qu'il est au-delà de ma puissance d'expliquer. Le poison est très semblable à la lyocine, et c'est l'un des pires toxiques alcaloïdes qui soit connu. Il est si violent dans ses propriétés destructives que la quantité qu'en pourrait contenir la cavité d'une dent est suffisante pour causer la mort instantanée. Il a été inséré dans une enveloppe de gutta percha, qui devait sûrement se défaire dans l'espace d'un mois, probablement plus tôt et probablement aussi pendant la mastication. La personne alors devait mourir sur le champ, soit après quelques minutes, et personne n'aurait établi de rapport entre une visite à un dentiste et le décès survenant un mois après. Ce qui suivit peut être dit en peu de mots. Madame Sarah fut arrêtée sur les préventions qui pesaient contre elle. Elle comparut devant le magistrat, dans toute sa beauté et son air le plus innocent. Elle réussit à berner cet homme rompu à toutes les ruses et faux-fuyant. Elle ne nia rien, mais déclara que le poison devait avoir été introduit dans la dent par l'un des deux Brésiliens qu'elle avait dernièrement engagé pour l'aider dans l'exercice de sa profession. Elle avait eu des soupçons sur ces deux hommes plus tard et les avait remerciés. Elle croyait qu'ils étaient à la solde de José Araújo, mais elle ne pouvait l'affirmer. Ainsi, Madame Sarah fut acquittée. J'ai été certain qu'elle était coupable, mais il n'y avait pas l'ombre d'une preuve. Un mois plus tard, Sylvain mourut et Selby est maintenant en possession d'une fortune de 2 millions sterling. Ainsi s'achève La sorcière du Strand par Lily Thomas Mead et Robert Eustace.